Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, attention, la parole est à la défense, à l'art de se défendre qui est un véritable savoir-faire qui s'enseigne et s'apprend comme on apprend une leçon, mais avec le corps. Le point de départ de cette philosophie de la violence, c'est le muscle qui se tend, se gonfle et sait frapper pour faire mal au bon moment. Quand ça cogne, on fait ce qu'on peut. Et si quand on reçoit une gifle, au lieu de présenter l'autre joue, on essayait de la rendre. Elle est en route sur les chemins de la philosophie. Aujourd'hui, on va apprendre à se défendre.
Un tribunal de la Guadeloupe, par jugement du 11 Brumaire en 11, a condamné Millet de la Girardière à être exposé sur la place de la Pointe-à-Pitre, dans une cage de fer jusqu'à ce que mort s'en suive. La cage, qui sert à ce supplice, a 8 pieds de haut. Le patient qu'on y enferme est à cheval sur une lame tranchante. Ses pieds portent sur des espèces d'étriers et il est obligé de tenir les jarrets tendus pour éviter d'être blessé par la lame. Devant lui, sur une table qui est à sa portée, on place des vivres et de quoi satisfaire sa soif. Mais un garde veille nuit et jour pour l'empêcher d'y toucher. Quand les forces de la victime commencent à s'épuiser, elle tombe sur le tranchant de la lame qui lui fait de profondes et cruelles blessures. Ce malheureux, stimulé par la douleur, se relève et retombe de nouveau sur la lame acérée qui le blesse horriblement. Ce supplice dure 3 ou 4 jours.
Cette jolie voix douce qui vient de lire ce texte insoutenable, c'est celle d'Elsa Dorlin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 8, spécialiste de l'histoire du sexisme et du racisme moderne. Vous avez publié plusieurs ouvrages qui portent sur la matrice de la race, l'évidence de l'égalité des sexes, et vous publiez aux éditions Zone « Se défendre, une philosophie de la violence » qui commence donc avec cette description d'un supplice insoutenable. Est-ce que c'est une manière de s'adresser directement au corps du lecteur ? Est-ce que vous imaginez son visage lorsqu'il lit ce texte qui se crispe ?
Oui, c'est une façon d'entrer directement dans le vif du sujet et de, effectivement de toucher, enfin, par cette description d'un corps qui est mortellement blessé et qui se blesse lui-même. C'est de rentrer dans le sujet directement. Et puis,
c'est le cas de le dire, comme la lame.
Exactement. C'était aussi un procédé... rhétorique qui m'intéressait puisque je voulais vraiment faire un écho avec l'ouverture de Surveiller et punir de Foucault.
Que vous connaissez bien, vous avez beaucoup travaillé sur Foucault.
Oui, effectivement. Et donc c'était, voilà, c'est une reprise un peu, donc à la fois travailler sur le corps et en même temps rentrer aussi dans un dialogue peut-être avec Michel Foucault pour essayer de faire un pas de côté et de montrer comment la généalogie du pouvoir pouvait aussi comprendre d'autres chapitres.
Voilà. Michel Foucault, comment surveiller et punir avec la description du supplice de Damien, ce corps écartelé sur la place publique. Vous commencez votre livre intitulé « Se défendre » par la description d'un homme qui, précisément, ne peut pas se défendre. Dès lors qu'il essaye d'échapper à la torture qui lui est infligée, il se fait encore plus mal. Vous commencez avec la mise en scène d'une impossibilité de se défendre qui est objective pour pouvoir ensuite montrer que cette impossibilité est aussi présente dans la société en dehors d'une cage qui a pour but de nous infliger un supplice.
Oui, ce qui était saisissant dans la description de cette technologie de torture, c'est au contraire que même il y avait quelque chose qui interpellait la puissance d'agir, le pouvoir aller chercher, exciter justement ce dernier élan défensif du corps, de l'individu qui tente de survivre malgré tout, pour mieux l'anéantir. Et l'idée était effectivement que plus on se défend, plus on souffre, ou que plus on se défend, plus justement cette énergie se transforme en fait en assaut mortifère. Et ce qui est le plus saisissant à mon sens dans le texte, et qui est bien montré dans l'extrait, c'est que lorsque le corps épuisé s'affaisse sur la lame, c'est précisément le mouvement réflexe qui fait qu'il se relève rapidement. Pour essayer, parce qu'il est saisi par la douleur. Et dans le fait qu'il se relève comme ça, justement, pour se protéger, il va épuiser d'autant plus les dernières ressources vitales qui lui permettent de rester debout. Donc oui, c'était aussi, il y avait une dimension assez métaphorique pour essayer de saisir ce qui se tramait dans certains dispositifs de pouvoir modernes et contemporains qui vont aller chercher... cet élan, cette défense de soi, pour mieux la miner d'une forme de précarité, de conscience malheureuse, dans une certaine mesure, comme si on ne pouvait plus compter justement sur cet élan vital, sur ces dernières ressources, parce que on ne pouvait plus, enfin, on était dans une forme d'incertitude absolue de savoir est-ce qu'on aurait suffisamment de force, est-ce qu'on allait pouvoir survivre ou pas.
Vous procédez dans votre livre de manière, selon une méthode qu'on pourrait appeler généalogique, hein, vous faites, qui est chère à Foucault d'ailleurs également, vous proposez une histoire de certains modes de défense, de libération, soit de l'esclavagisme, soit d'autres modes d'oppression, qui sont très diverses d'ailleurs, et vous montrez bien comment il ne faut pas les confondre, que chaque lutte a sa spécificité. Vous décelez les mécanismes à l'œuvre dans ces violences. Autant de choses qui finalement ne sont pas nouvelles, puisque Foucault l'a déjà fait, et a sans doute initié cette méthode-là, et beaucoup d'ouvrages paraissent sur le sujet, mais la valeur ajoutée de votre livre, c'est l'angle, c'est bien celui de la défense. Or, ce terme-là est très peu utilisé, finalement, d'un point de vue de la réflexion philosophique, dans les ouvrages en tout cas. Et cette défense, c'est aussi celle du corps. Vous avez une double originalité qui fait que vous amorcez la réflexion à partir du corps, on l'a entendu dans cette description, et vous vous mettez du point de vue de ce qu'on pourrait appeler une victime, mais vous refusez justement ce terme-là pour montrer que, en fait, ne victimisons pas les victimes, montrons qu'elles sont capables de se défendre. Il faut entendre le titre de ce livre, « Se défendre », comme un appel, comme un encouragement, comme une possibilité, en tout cas.
Oui, c'est un possible qui doit demeurer ouvert, et c'est... Et c'est aussi le prendre du côté d'une forme d'impureté. Mon objectif n'était pas de travailler sur les résistances, sur le droit à la résistance, par exemple. Mon objectif n'était pas une forme d'aller chercher une matière, une archive qui était d'emblée, en tout cas de mon point de vue, déjà auréolé d'une forme de noblesse politique ou de valeurs supérieures, mais d'aller vraiment sur un plan d'immanence corporelle, voir ce que même y compris dans une réaction en fait, et dans cette forme de négativité, qu'est-ce que ça veut dire réagir à quelque chose, ouais. Réagir à une blessure, réagir à une agression, et l'ensemble de ce vocabulaire, y compris réagir avec violence, par exemple, l'ensemble de ce vocabulaire, de ce lexique, en tout cas, qui est déjà considéré un peu comme impur. Il faut pas réagir, mais il faut plutôt agir. La question de la violence, par exemple, elle est toujours grévée par une question morale. Et puis le corps, on a besoin finalement, pour qu'une action soit considérée comme politique, on a besoin d'un outillage de discours, de valeurs, d'idéaux. Et au contraire, je voulais un peu faire un pas de côté par rapport à tout ça et m'interroger presque dans une dimension très phénoménale. C'est-à-dire à quel moment même un muscle se contracte pour se défendre d'un coup, ou à quel moment dans une situation tout à fait prosaïque, banale, qui peut correspondre à une expérience vécue très commune, une remarque dans la rue, une humiliation, Mais dans ces petites agressions comme ça qui rendent des vies invivables, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va réagir ou pas, c'est ce point-là d'explosion un petit peu, même anonyme, du corps qui m'a intéressée.
Est-ce que vous pensez qu'une défense est toujours légitime ?
Non. Non. Peut-être aussi parce que je suspends la question de la légitimité. Enfin, je la suspends, en tout cas, au départ. Et une défense, en tout cas, elle produit quelque chose. C'est un événement, en fait. Lorsqu'on se défend, on crée un événement. On réagit. Donc ça modifie, en fait, le rapport à l'autre. Ça modifie un rapport au monde. Ça met un peu de désordre, en fait. Et puis dans cette idée de la légitimité, ce qui m'a intéressée, c'est aussi pour ça que, évidemment, c'est dans une perspective qui reste foucauldienne, c'est que j'ai essayé de montrer comment, ou en tout cas de saisir ou de circonscrire quelque chose qui pourrait s'appeler un régime défensif ou un gouvernement défensif, c'est-à-dire que où il y a à la fois des formes d'interpellation du pouvoir qui enjoint, qui donne des contraintes à la défense. Il faut se défendre contre l'insécurité, il faut œuvrer pour sa propre sûreté. Voilà, il y a une sorte d'injonction comme ça permanente. Et en même temps, on voit bien que les corps sont pris dans des nécessités vitales de se défendre. Donc j'ai essayé de voir comment il y a à la fois des formes d'assujettissement par la défense et les injonctions à se défendre et à ne pas être une victime surtout.
C'est ça.
Et puis, peut-être une histoire plus ensevelie, plus sombre, plus impure de toutes ces événements corporels, cette archive corporelle, ces techniques corporelles qui émergent et qui relèvent d'une forme d'élan défensif que j'ai aimé travailler.
Donc, par exemple, si on prend concrètement un cas particulier pour la première ligne que vous venez de dessiner, ces appels à la défense qui sont en fait plus victimisants qu'autre chose, quels sont-ils ?
Eh bien, moi, ce que j'ai essayé de retrouver, c'est justement un bon exemple, c'est l'histoire de la légitime défense et qui peut s'articuler au concept de conservation de soi, au droit naturel, l'obligation, à la fois le droit et le devoir, l'obligation de se conserver soi-même, qui est considérée comme faisant partie des droits naturels. Cette idée que je dois œuvrer par tous les moyens possibles à conserver ma vie, et d'ailleurs celle de l'espèce, fait partie des droits décrits par les philosophes du contrat. Et à partir de là, on peut essayer d'écrire justement l'histoire juridico-politique de la légitime défense et montrer que, à partir de ce droit naturel, il y a une conversion juridique par rapport à la légitime défense, c'est-à-dire qui intervient lorsque, dans des situations où l'État, par exemple, ne serait plus capable de conserver la vie de ses citoyens dans des cas exceptionnels, soit que l'État faillit, soit que l'État n'est pas là finalement pour intervenir directement, eh bien, il y a quelque chose comme un droit à la légitime défense qui est encore possible et qui finalement est une sorte de résurgence de l'État de nature.
Oui, comme si parfois c'est l'État de nature nous protégeait davantage que l'État institué par l'homme. C'est en tout cas la question qui se pose et je vous propose qu'on la creuse ensemble en écoutant un texte que vous citez. Dans votre livre, un texte de Hobbes, le philosophe Thomas Hobbes, qui écrit le Léviathan, dans lequel il décrit la constitution d'un État comme étant le seul moyen trouvé par l'homme. Il faut savoir que chez Hobbes, l'homme est une espèce de pulsion qui n'a qu'un but, c'est d'essayer de se protéger contre les autres, qui est prêt à détruire ses voisins pour rester en vie. Une espèce de pulsion sur laquelle on aurait greffé une machine à calculer, dit-il, c'est la raison. Hein, c'est comme ça qu'on peut définir l'homme chez Hobbes. Son état, c'est l'état de guerre de chacun contre chacun. Et bien, la seule façon de vivre en paix, c'est de constituer un état dans lequel chaque citoyen, chaque sujet va devenir un citoyen, accepte de remettre sa force entre les mains d'un seul souverain, qui du coup est absolument seul et donc tout puissant, et qui lui va pouvoir faire en sorte que la paix s'installe dans ce pays. Écoutez ce texte fascinant, c'est donc un extrait du Léviathan de Thomas Hobbes.
Parce que la condition de l'homme est d'être dans un état de guerre de chacun contre chacun, situation où chacun est gouverné par sa propre raison, et qu'il n'y a rien dont il ne puisse faire usage dans ce qui peut l'aider à préserver sa vie contre ses ennemis, il s'ensuit que, dans un tel état, tout homme a un droit sur toute chose, même sur le corps d'un autre homme. Et c'est pourquoi, aussi longtemps que ce droit naturel de tout homme sur toute chose perdure, aucun homme, si fort et si sage soit-il, ne peut être assuré de vivre le temps que la nature alloue ordinairement aux hommes. Et, par conséquent, C'est un précepte, une règle générale de la raison, que tout homme doit s'efforcer à la paix aussi longtemps qu'il a l'espoir de l'obtenir, et que, quand il ne parvient pas à l'obtenir, il peut rechercher et utiliser tous les secours et les avantages de la guerre. La première partie de cette règle contient la première et fondamentale loi de nature, qui est de rechercher la paix et de s'y conformer. La seconde contient le résumé du droit de nature qui est, par tous les moyens, nous pouvons nous défendre.
Les forces de l'ordre mettraient des amendes en flagrant délit dès lors qu'ils observeraient des phénomènes de harcèlement de rue. Ça, c'est pour l'aspect concret. Ensuite, il y a bien évidemment un aspect pédagogique, un aspect symbolique. On sait qu'il n'y aura pas un policier derrière chaque harcèlement de rue, mais l'idée, c'est que les lois de la République française inscrivent noir sur blanc qu'il est interdit d'intimider des femmes dans l'espace public.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, Thomas Hobbes et Marlène Schiappa, à l'occasion d'une émission en compagnie de la philosophe Elsa Dorlin, qui fait paraître aux éditions Zone « Se défendre, une philosophie de la violence ». Le texte de Hobbes, lu par le comédien Yvan Morane, le disait bien, si tout homme doit s'efforcer à la paix, la seule manière d'y parvenir, eh bien, c'est de remettre l'usage légitime de sa violence entre les mains d'un seul homme, ce qui est une manière de régler les choses, on va y venir dans un instant, Elsa Dorlin. Et puis de l'autre côté, je voulais qu'on oppose ou qu'on compare deux façons que peut avoir un gouvernement de proposer la paix parmi les citoyens. Nous avons entendu la voix de Marlène Schiappa, c'était le 27 novembre dernier au micro de Patrick Cohen, deux jours après le discours d'Emmanuel Macron. Discours donc contre la violence faite aux femmes. Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, reprenait la proposition du gouvernement de renforcer l'arsenal répressif en créant un délit d'outrage sexiste, c'est-à-dire qu'il serait immédiatement verbalisable sans dépôt de plainte. On a là une modalité d'action qui passe par la loi, qui s'intéresse à certains types de ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement, donc une modalité d'exercice de la violence d'une partie de la population contre une autre, qui en fait s'oppose à ce que décrit Hobbes, où là c'est un seul homme qui va décider arbitrairement et sans faire de cas par cas ce qu'il y a de bien pour un pays. Est-ce que ce que décrit Hobbes, qui vous est cher, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que ce que décrit Hobbes finalement n'est pas moins efficace pour se défendre que ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans notre République française, où on a peut-être plus d'attention au cas par cas que dans la République hobbesienne?
En fait, ce qui me semble vraiment important de relever chez Hobbes, c'est que justement, il n'y a pas de légitime défense. Il y a un élan défensif. Et on part d'une situation qui relève d'une anthropologie philosophique. Chaque individu est justement défini par Hobbes comme étant une sorte d'élan vital, c'est-à-dire tout ce que je mets en place pour me conserver est une forme de création, qui devient une création protéiforme, faite de ruses, d'imagination, de mots, d'une sémiotique de la puissance pour impressionner les autres et pour qu'ils évitent d'attenter à ma vie. Enfin, je veux dire, ce sont des élans vitaux qui visent la conservation de soi. Et ça part plutôt précisément pour décrire une situation d'égalité et d'égalité naturelle.
Enfin, d'égalité naturelle.
Tous les corps.
De quel point de vue?
Au sens où
c'est la loi du plus fort quand même.
C'est pas la loi du plus fort, parce que exactement ce que dit Hobbes dans le Léviathan, c'est que il y a une égalité naturelle, puisque peut-être que le plus rapide ou le plus fort, par exemple, physiquement, aura le dessus à un certain moment, mais le plus rapide ou le plus rusé finira aussi par avoir le dessus dans certaines circonstances.
Ce qui reste la loi du plus fort, même intellectuellement ou physiquement.
Je suis pas sûre que ça relève de la loi du plus fort. Je pense qu'il y a vraiment une dimension qui est lié vraiment chez Hobbes à la description de quelque chose qui est une précarité, enfin quelque chose de, les rapports de pouvoir sont absolument précaires. Il est indécidable en fait de ça. Enfin, on ne peut pas savoir qui dominera l'autre, puisque même celui qui, à un moment, dans certaines circonstances, dans un certain temps, dans une certaine situation, va dominer, sera dominé l'instant d'après. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que cet élan défensif, d'ailleurs qui n'est pas référé effectivement à un sujet déjà constitué, qui est plutôt, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, une sorte de pulsion, en tout cas, voilà, une
c'est
force.
C'est le modèle physique,
exactement,
c'est ça qu'il faut avoir en tête.
Mais qui, et en même temps, n'est pas du tout dans une dimension de conservation de soi, qui belliqueuse, par exemple, mais qui est plutôt dans l'idée qu'à partir de cette conservation de soi, Hobbes va en déduire l'ensemble de la création de l'esprit humain, c'est-à-dire que ça développe la ruse, ça développe les mots, le jeu avec les mots, ça développe la question du signe, montrer que je suis plus fort et non pas être forcément le plus fort.
Il faut seul but étant de rester en vie.
Exactement.
C'est ça que nous avons tous en commun.
Exactement. Et du coup, lorsque le contrat intervient, l'idée par rapport au Léviathan, c'est que cette instance souveraine ne mettent pas forcément un arsenal répressif, mais qu'elles fassent suffisamment peur pour arrêter cette anarchie, finalement, de la vie et des vies qui tentent de se conserver et qui finit effectivement par être une véritable état de guerre.
Donc on obtient la paix par la peur.
Exactement. Or, ce qui est intéressant dans le discours de Marlène Schiappa, qui parle justement sur la possible criminalisation du harcèlement de rue, et il y a un mot qui est fondamental. On va faire une loi pour que les hommes, en l'occurrence, enfin, j'imagine, comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent d'intimider les femmes. Mais la question n'est pas là. Il faut que l'État soit suffisamment intimidant en amont pour que les hommes considèrent que les femmes ne sont pas potentiellement agressables.
Donc vous en appelez à un État plus fort?
Moi, je n'en appelle pas un État plus fort. Je dis juste que si on reste dans une conception qui serait celle de Hobbes, puisque vous montriez le lien entre les deux, si on voulait adopter une solution juridico-politique d'un État qui prend effectivement à cœur la sécurité de chacun, il faudrait que cet État soit cohérent avec lui-même. Il ne peut pas prendre des dispositions après coup, laisser la guerre et ensuite dire...
Ensuite,
effectivement,
punir ceux
qui au plus fort, entre guillemets, à ceux qui auraient le dessus, écoutez, c'est vraiment pas bien, on va vous punir quand même. Non, il faut empêcher la guerre. La position de Hobbes, c'est de prévenir. C'est pas de laisser la guerre, de dire ensuite, une fois que tout le monde...
Oui, mais Elsa Dorlin, vous savez bien que l'état que décrit Hobbes, personne n'a envie d'y vivre.
Non, mais moi non plus. Moi non plus. En tout cas, c'est une fausse, à mon avis, c'est une fausse argumentation de considérer qu'un État qui aurait pour objectif de pacifier les rapports intersubjectifs ou les rapports sociaux serait efficace en ayant pour seule modalité une législation qui vient après le problème. C'est-à-dire qui vient criminaliser ou pénaliser, par exemple, l'idée qu'il ne faut pas que les hommes intimident les femmes.
Mais peut-être que tout simplement, il ne faut pas attendre cette intervention de la part de l'État, peut-être que ce n'est pas le rôle de l'État d'apprendre aux individus, aux femmes en l'occurrence, puisque nous parlons du cas du harcèlement de rue, à se défendre.
Mais moi, je suis complètement à l'opposé d'une solution qui serait celle où il faudrait s'en remettre à un État pour assurer sa propre... Même, on ne parle même pas de protection, on parle même d'intégrité corporelle. Donc... Évidemment que pour moi, c'est à l'opposé. La question que je pose, c'est pourquoi il y a une situation qui fait que un groupe social intimide un autre groupe social. C'est comme si finalement, dans le cas des rapports, en l'occurrence de genre, on était resté dans une sorte de double temporalité. C'est-à-dire, il y aurait la société. Et puis il y aurait une sorte d'état de nature qui serait resté au cœur de cette société. L'état de nature serait que finalement, eh ben oui, dans l'état de nature, voilà, il y a certains individus qui sont considérés comme voilà devant se défendre tout seul ou étant vraiment démunis, c'est-à-dire ne pouvant pas être protégés suffisamment. Enfin, qui n'auraient pas passé le contrat social. Donc il y a quand même l'idée que il y a des groupes sociaux qui sont un peu restés à la porte du contrat social. Alors, une autre solution, enfin, une autre façon de poser le problème, c'est évidemment de considérer que il y a quelque chose qui est de l'ordre il y a des violences qui demeurent et qui restent licites. C'est-à-dire qu'elles restent complètement considérées comme normale dans la société, ou plus exactement, il y a des corps qui, en utilisant la violence, sont considérés comme, se réaffirment comme sujet politique. Mmh. L'usage de la violence, par exemple, le fait qu'on continue à définir que les hommes agressent des femmes, et donc ça impose une définition qui est qu'il y a certains corps qui sont par définition agressables, et d'autres qui sont par définition capables, en fait, d'agresser. Et donc, c'est cette équation-là qu'il faudrait changer. C'est ouais. vraiment cette formule-là. Et que l'usage de la violence pour sa propre défense, ou en tout cas cette question de ne doit pas passer par et à l'opposé d'une solution qui consisterait à dire les femmes sont par définition des corps violentables et elles doivent constamment s'en remettre à l'État pour demander plus de protection, alors qu'on pourrait très bien considérer que à l'heure actuelle, les femmes constituent un groupe social qui, effectivement, subit des violences de façon relativement structurelle. Et donc, le problème est de donner à ce groupe social, en tout cas de façon individuelle et collective, les moyens d'une autodétermination qui fait que, effectivement, il est possible d'enrayer la violence par des formes de défense de soi.
Comme par exemple un cours de Krav Maga.
Quand j'ai commencé le Krav, les élèves venaient pour se défouler, une activité, je dirais, comme une autre presque. Et de plus en plus, aujourd'hui, nous, on pose des questions, mais voilà, pourquoi vous voulez faire du Krav Maga? Mais en fait, des fois, on n'a même pas besoin de poser la question, les gens viennent et nous expliquent, voilà, moi, il m'est arrivé ça et j'aimerais bien savoir un petit peu me défendre, etc.
Un peu trop d'agression, donc vaut mieux savoir se défendre avant de se faire agresser en fait. Rien que prendre par le cou direct ou à la fin prendre avec le cou et avec l'arme et traîner par terre l'agresseur, ça c'est bon, ça marche.
Mieux vaut savoir se défendre avant de se faire agresser. Donc là c'était un reportage sur Nathalie Renard, instructrice de Krav Maga à Guyancourt, première femme diplômée de France dans sa fédération. De plus en plus de personnes prennent des cours de Krav Maga. Vous l'évoquez dans votre livre Elsa Dorlin comme étant un type de défense qui passe là clairement par le corps. C'est pas vraiment un art martial, hein, mais c'est vraiment une méthode qui a été inventée pour, dites-vous, protéger d'autres corps. Effectivement, que ce soit son corps ou celui d'un autre, cette méthode-là a pour but est purement défensive. C'est vraiment contre une attaque. Il faut savoir se défendre, à savoir protéger son corps, pourquoi pas celui d'un autre, en désarmant le corps qui vient s'attaquer à nous. On est ici dans un type de défense qu'on a envie d'appeler autodéfense. On se défend soi-même sans faire recours à une autre autorité qui semble être la voie la plus sûre finalement de pouvoir se défendre contre toutes les attaques possibles qu'on peut subir quand on est une femme notamment, puisqu'ici nous parlons des femmes et là d'une instructrice de Krav Maga. Or, vous montrez dans votre livre que c'est pas si simple que ça, c'est que même la défense par le corps, le savoir-faire de corporel ne suffit pas à se prémunir contre toute forme de violence. En quel sens est-ce que c'est pas suffisant?
Mais là, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire sur le Krav Maga. Enfin, ce qu'on connaît aujourd'hui du Krav Maga tel qu'elle s'est pratiquée dans des salles en Europe, ça n'a rien à voir avec l'histoire du Krav Maga et l'origine du Krav Maga. L'origine du Krav Maga, enfin, remonte, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer, remonte à la fin du 19e siècle et à la lutte contre les pogroms en Russie. Donc, c'est un art défensif qui est structuré sur la base d'un combat rapproché, parce que d'un corps à corps, parce que là c'était vraiment des populations juives dans les zones de cantonnement de la Russie tsariste qui subissaient des pogroms les plus meurtriers et qui n'avaient d'autres moyens de défense que leur propre corps, et donc on par des formes d'ascèse martiale se sont entraînés effectivement pour pouvoir faire entraver en fait ces foules antisémites. Et ensuite cet art du combat qu'on va retrouver également en partie d'ailleurs pratiqué dans le ghetto de Varsovie au moment de l'insurrection, parce que ce sont les militants entre autres du Bund, du parti ouvrier juif polonais et russe, qui ont exercé cet art du combat contre les pogroms et qui dans l'insurrection du ghetto de Varsovie, vont également l'utiliser comme une forme de technique insurrectionnelle. pour défendre quelque chose qui est même au-delà de la vie, puisqu'il se savait condamné. Donc il n'y a rien d'héroïque là-dedans, il y a au contraire vraiment
un geste de survie,
une forme d'ascèse qui relève d'une éthique de soi, en fait, d'une façon de changer de posture, y compris face à la mort, et de rester dans une forme de défense, peut-être même pas de sa vie, mais des valeurs de la vie elle-même, en fait. De ne pas mourir abattu. Ensuite, la façon dont le Krav Maga se retrouve, notamment en Palestine mandataire, par une autre partie de militants qui ont également été des militants contre les pogroms, mais le Krav Maga va se formaliser comme une technique, en fait, plutôt nationale, militaire, à un moment donné où il n'y a pas d'armée israélienne, évidemment, où il y a très peu de moyens, et où ces techniques de corps à corps vont être rationalisées comme des techniques très efficaces dans un combat qui est considéré comme asymétrique pour aller prendre position, terroriser les populations civiles palestiniennes, infiltrer des groupes, obtenir des positions, etc. Et le corps à corps va être une forme de technique martiale ultra efficace, mais qui va bouleverser en fait les stratégies militaires classiques où il y a une armée qui se fait face et où on va vraiment aller cibler les points vitaux de l'ennemi, et donc dans des coups qui sont à la fois très rapides, universels, ultra efficaces et qui visent constamment le sang, c'est-à-dire qui sont des coups, la plupart du temps, qui sont des frappes létales.
Oui, le but du Krav Maga, si on l'applique jusqu'au bout, c'est de tuer l'autre.
Donc en fait, le Krav Maga va se transformer dans cette forme d'efficace de technique d'autodéfense, mais qui ne va plus être de l'autodéfense, qui va être ce qu'on va appeler des formes défense-attaque, en fait, puisque va être théorisé le fait que la meilleure défense, c'est d'attaquer et de cibler constamment le centre, enfin d'infiltrer vraiment. Donc, c'est même, si vous voulez, même en termes de représentation du combat, d'un point de vue symbolique, c'est l'idée aussi que plus on est proche de l'ennemi, entre guillemets, et plus on est en sécurité, puisqu'on va rentrer complètement dans ses points vitaux. Alors que si on est à distance, dans des formes de scénographie martiale un peu classique, de type par exemple la boxe, on est peut-être à distance, mais on est exactement dans la ligne pour recevoir un coup sur le visage, ce qui est très dangereux, ce qui est justement ce qu'il faut éviter. Donc en fait, il y a toute un imaginaire du combat que le Krav Maga va venir un peu déconstruire. Mais si on parle du Krav Maga comme technique efficace en ce qui concerne les violences, par exemple, faites aux femmes, pour moi, on est vraiment dans une forme d'idéologie, de l'injonction à la défense de soi, et qui va créer une ligne de partage entre des experts de la défense et des profanes. Or, l'idée qui est fondamentale, c'est que, et c'était dans votre reportage, la personne disait... Ici, ce que je voudrais apprendre, c'est savoir me défendre. Mais en fait, dans la situation des violences faites aux femmes, ce savoir-là, il est immanent aux femmes. C'est-à-dire, elles l'ont en elles-mêmes. Résister au jour le jour à l'ensemble de cette multitude protéiforme d'agressions et de violences suppose un savoir et une expertise de l'autodéfense qui est extrêmement important.
Ça veut dire qu'on a désappris à se battre.
Et complètement...
Que dans l'anthropologie de Hobbes, dont on parlait tout à l'heure, hein, cette guerre de chacun contre chacun, finalement, le présupposé, c'est que cette violence, nous l'avons en nous, elle est même constitutive de notre nature humaine. Simplement, la société a civilisé, lissé ces rapports de force qui font qu'aujourd'hui, les automatismes sont moins présents chez une certaine partie de la population pour permettre de se défendre.
Oui, c'est-à-dire que c'est quand même un dispositif discriminant.
Donc il faut présupposer la violence initiale, déjà, c'est ça ce que vous dites. C'est qu'elle elle est partout.
En fait, ce que moi j'essaie d'appeler violence, enfin, ou en tout cas de saisir là, y compris le concept d'autodéfense, c'est probablement ce que j'ai vu chez Hobbes, qui est cette disposition rusée au combat ou à la défense de soi, qui fait que il y a une forme d'inventivité exceptionnelle pour utiliser toutes les ressources et tous les moyens en nous-mêmes et à disposition pour défendre sa vie. Et donc, il y a une forme de violence qui est même la violence de cet élan vital, c'est-à-dire qui est en nous. Il y a ce texte magnifique dans Le Citoyen de Hobbes où il explique le prisonnier que les geôliers emmènent, qu'il sorte de sa cellule pour être jugé et condamné et exécuté. Ce prisonnier va essayer de s'enfuir, va essayer de s'évader par tous les moyens possibles. Eh bien, c'est violent dans une certaine mesure, parce que ça outrepasse les lois. Il est jugé, il sait qu'il est condamné, mais il va essayer de s'enfuir. Et pour Hobbes, c'est tout à fait légitime, au sens, non pas que ce serait légitime en fonction des lois, mais c'est légitime parce que c'est l'élan même de cet élan de conservation de soi. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre effectivement d'une violence, mais d'une violence qui est en même temps créatrice de vie, au sens qui produit d'autres façons de se maintenir en vie face à ce qui peut atteindre notre puissance d'agir. Donc, dans le cas de la violence faite aux femmes, la question est, oui, il y a une forme de désapprentissage qui relève d'une éducation à la féminité, qui est désapprendre, effectivement, à ne pas se battre. Puisque, encore une fois, résister à ces violences quotidiennes dont on connaît maintenant même l'ampleur, et enfin ça sert à rien de rappeler des chiffres, mais qui sont quand même aberrants. Je veux dire, 167 viols par jour en France. 167. 125 meurtres par an. Là, on est dans une situation, enfin, je veux dire...
comptabilisé, en plus.
Hein. Exactement. C'est l'état de nature, là, pour le coup.
Mais
il y a cette disposition, cette création... elle est là, en fait. On a plein de petits trucs, de petites ruses pour éviter cette violence.
Mais est-ce qu'un des écueils, pour me faire l'avocat du diable, Elsa Dorlin, est-ce qu'un des écueils de votre position n'est pas celui qui consiste à essentialiser les hommes d'un côté et les femmes de l'autre? Loin de moi, le plus loin possible de moi, l'idée de vouloir minimiser la violence faite aux femmes. Reste qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes d'autres hommes, voire des hommes qui sont victimes des femmes. Est-ce que dans ce que vous dites, il n'y a pas l'idée que nous, les femmes, puisque vous et moi sommes une femme, je crois, aujourd'hui, avons désappris à nous battre, il nous faut réapprendre à se défendre, et ça devait être naturel, et finalement, ça n'est plus le cas. Quel sens y a-t-il à genrer votre réflexion? Est-ce qu'il ne faut pas l'étendre à toute forme de personnes qui elles-mêmes sont victimes de violences et qui ne parviennent pas à se défendre?
Moi, je veux bien qu'on fasse ce contre-argument, mais... Je trouve que c'est un peu injuste pour le coup, parce que s'il y a bien quelqu'un qui travaille dans une non-essentialisation du genre...
Que répondez-vous à cette question? Parce que c'est les auditeurs qui vous écoutent, se disent « bah oui, mais... »
Vous m'interpellez sur les violences faites aux femmes. Vous m'interpellez sur les violences faites aux femmes. Je réponds sur la question d'un rapport social qui est identifié comme tel, et dont j'essentialise pas ce dont on parle, puisque ma définition en la matière est précisément la plus minimale possible, et de dire « voilà, il y a juste des corps... »
C'est ça.
Qui sont construits comme agressables et donc qui vont être désarmés ou qui vont être socialisés comme ayant un recours moins légitime, moins licite à la violence. Donc c'est des formes, y compris de construction de soi.
C'est quoi, c'est des constructions sociales ?
Là, pour le coup, moi je ne suis pas sociologue, mais même une observation dans n'importe laquelle de cours, la cour des écoles, d'une école primaire, vous voyez le rapport à l'espace, sans même parler de petites filles ou de petits garçons. Regardons un espace, une cour d'école, et regardons les corps qui prennent le plus d'espace, c'est-à-dire qui font une expérience corporelle d'eux-mêmes, qui ont un schéma corporel tel que leur corps peut se déplacer en toute liberté, peut courir, se déployer, etc. Regardons au contraire les corps qui restent plutôt immobiles, plutôt dans des jeux très statiques, plutôt un peu repliés sur eux-mêmes. Souvent, on va avoir justement des lignes qui vont être très genrées. C'est-à-dire les petits garçons jouent souvent sur un terrain de foot, etc. vont prendre beaucoup d'espace, vont avoir des jeux où leur corps se déploie beaucoup plus. Et les filles vont avoir tendance à être socialisées, évidemment. Une socialisation qui font qu'elles sont davantage dans des jeux plus statiques, plus immobiles. C'est-à-dire que l'expérience du déploiement même de leurs gestes ou de leurs muscles est plus rare. Plus rare, ça ne veut pas dire que ça n'y est pas, ça veut dire que c'est plus rare. Et donc juste la question de la façon dont on habite son corps et la façon dont on est autorisé à le vivre et à en faire l'expérience est déterminante par rapport à la question de la défense de soi. Donc lorsque je dis qu'il y a des corps qui sont violentables parce que justement ils ont désappris à ne pas se battre, ce n'est pas essentialiser la question, c'est juste de dire qu'il y a précisément un régime de pouvoir qui cible des corps de telle façon que certains sont autorisés, encouragés à user de violence, à user d'une forme de d'être pleinement dans une vie, je veux dire, qui est dans la pleine conscience de leur puissance d'agir, et d'autres corps qui sont évidemment des corps, par conséquent, qui renvoient à des sujets minorisés, que ce soit en termes de genre, en termes de classe, en termes de race, de couleur, de sexualité, d'âge même, et qui sont des corps qui, au contraire, qu'on interpelle dans des formes d'impuissance d'agir. Et ces formes d'impuissance d'agir, elles sont liées à l'idée d'empêchement de se déployer, d'entravement, enfin voilà. Je vais prendre encore une autre image tout à fait prosaïque. On va reprendre le RER ce soir, ou le métro, ou le bus, ou le tramway, peu importe. Et on va voir quels sont les corps qui prennent le plus de place sur une banquette, ou les corps qui, au contraire, ont les jambes repliées et essayent de prendre le moins de place possible.
Donc vous essentialisez pas, mais vous êtes quand même persuadé qu'il y a une vraie différence, pour le coup.
Mais c'est
et qu'elle compte.
Mais la question de la question de l'histoire, d'un rapport de pouvoir qui s'est sédimenté, et qui s'est sédimenté à tel point que nous en portons les traces dans notre façon d'être au monde et dans notre façon d'habiter notre corps, voilà, c'est quand même quelque chose qui est relativement compréhensible, c'est-à-dire que oui, nous avons...
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres distinctions que celles du genre qui permettent d'observer ce genre de différence. Il y a la question de la taille, la question de l'élocution. Il y a beaucoup, beaucoup de différences parmi les individus qui établissent aussi des catégories de dominés, de dominants. Il n'y a pas que celle du genre, quoi. Mais si vous dites que c'est... Voilà, c'est aussi votre position. J'interrogeais la pertinence pour la recherche, le travail qui est le vôtre, de la possibilité de réduire cette nécessité de se défendre à une catégorie des individus qui seraient uniquement les femmes. On est bien d'accord qu'il y a beaucoup d'autres individus qui sont aussi concernés par cette nécessité.
Bien sûr. Mais en fait, juste, ça s'appelle des rapports de pouvoir, non ? Enfin, l'idée, c'est que c'est le pouvoir n'est pas très gentil. Voilà. Donc, et qu'il n'est pas non plus identique. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas des modalités. Il n'est pas simple non plus. Il y a aussi une complexité dans ces modalités d'effectuation, etc. Dans ces rapports de pouvoir sont complexes. Malgré tout, dans cette complexité, je veux dire, une précision pourrait très bien consister à dire que vous soyez, par exemple, une femme appartenant à la grande bourgeoisie blanche, dans des professions plutôt épargnées, comme vous et moi, intellectuelles, etc. Vous ne faites pas la même expérience du sexisme qu'une femme qui est actuellement en grève, en étant femme de ménage, noire, dans un grand hôtel. Ce n'est pas la même modalité, mais le sexisme n'est pas vécu de la même façon, et donc il n'y a pas de rapport de pouvoir. Je ne suis pas pour considérer qu'on peut isoler le rapport de genre des autres rapports de pouvoir.
On peut imaginer ce qui se passerait dans un monde, on est parti de l'anthropologie de Hobbes, hein, pour montrer cet univers ultra-violent à la base, qui est venu polisser en partie le type de société dans lequel nous vivons. On pourrait imaginer un monde où l'autre n'existerait pas, où un individu sur une île solitaire, à la manière de Vendredi ou La Vie sauvage. C'est ce que fait Michel Tournier dans son texte, mais c'est aussi ce que fait Deleuze en décrivant ce que fait Vendredi lorsqu'il est sur son île. Écoutez le texte qu'il propose dans son livre, que Deleuze propose en Michel Tournier, Le monde sans autrui. Il commence ainsi. Que se passe-t-il quand autrui fait défaut dans la structure du monde ? Seul règne la brutale opposition du soleil et de la terre, d'une lumière insoutenable et d'un abîme obscur. La loi sommaire du tout ou rien. Le su et le non-su, le perçu et le non-perçu s'affrontent absolument, dans un combat sans nuance. Ma vision de l'île est réduite à elle-même. Ce que je n'en vois pas est un inconnu absolu. Partout où je ne suis pas règne une nuit insondable. Monde cru et noir, sans potentialité ni virtualité. C'est la catégorie du possible qui s'est écroulée. L'absence d'autrui, c'est quand on se cogne et que nous est révélée la vitesse stupéfiante de nos gestes. Il n'y a plus de transition. Fini la douceur des contiguïtés et des ressemblances qui nous permettaient d'habiter le monde. Plus rien ne subsiste que des profondeurs infranchissables, des distances et des différences absolues, ou bien, au contraire, d'insupportables répétitions, comme des longueurs exactement superposées. Autrui n'est ni un objet dans le champ de ma perception, ni un sujet qui me perçoit. C'est d'abord une structure du champ perceptif, sans laquelle ce champ dans son ensemble ne fonctionnerait pas comme il le fait. Mais quelle est cette structure ? C'est celle du possible. Un visage effrayé, c'est l'expression d'un monde possible effrayant, ou de quelque chose d'effrayant dans le monde que je ne vois pas encore. Autrui comme structure, c'est l'expression d'un monde possible, c'est l'exprimé saisi comme n'existant pas encore, hors de ce qu'il exprime. Que se passe-t-il en cas d'absence d'autrui pour le champ perceptif ? Est-il structuré d'après d'autres catégories ? Ou au contraire, s'ouvre-t-il sur une matière très spéciale, nous faisant pénétrer dans un informel particulier ? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Je viens de lire un texte de Gilles Deleuze, Michel Tournier, Le monde sans autrui, qui est une postface qu'on trouve dans Vendredi ou Les Limbes du Pacifique aux éditions Gallimard. Ce n'est pas Vendredi, c'est Robinson, hein, contrairement à ce que j'ai dit, évidemment, qui est seul sur son île. Ce texte est sublime, Elsa Dorlin. Et vous aimez y faire référence, justement, pour montrer en quel sens le rapport à autrui peut être empreint inéluctablement de violence, mais il est absolument nécessaire.
Non, ça c'est un texte que j'utilise et que je commente et sur lequel je m'appuie dans le livre et qui se réfère à l'analyse justement de ce monde où semble-t-il dans l'idée de se défendre ou d'être obsédé par la défense ou sa sécurité, on a quand même une distinction entre ceux qui sont toujours légitime finalement à se défendre et à rentrer dans des formes de subjectivité paranoïaque et puis ceux qui pour justement historiquement ont toujours été laissés sans défense et ont dû trouver des tactiques on va dire d'autodéfense pour survivre. Et je reprends exactement un fait divers qui s'est passé en 2012 qui est le meurtre d'un jeune adolescent en Floride, qui s'appelle Trayvon Martin, un jeune adolescent africain-américain qui raccompagnait une amie dans un quartier blanc et qui, en sortant d'une épicerie où il avait acheté une bouteille de soda dans sa poche, s'est fait abattre par deux balles dans le dos par un vigilant, ce qu'on appelle un vigilant aux États-Unis, c'est-à-dire un citoyen lambda, mais qui est autorisé par les lois à se constituer comme une sorte de relais d'un ordre sécuritaire.
Ce qu'on appelle les voisins vigilants. Exactement. Hein, on a le droit de regarder autour de soi dans le quartier.
Et il se trouve que Trayvon Martin, jeune adolescent africain-américain qui est habillé dans un sweat noir à capuche, est considéré, là vous voyez, ce n'est pas la question du genre, mais c'est bien la question de la race, est considéré comme un corps abattable même par un citoyen, un bon citoyen. Et donc, dans ce dispositif, finalement, comme tout jeune adolescent africain-américain ou comme tout homme africain-américain aux États-Unis, la question de la défense de soi est une question historique parce que la communauté africaine-américaine, du fait d'un régime raciste, a été menacée, abattue, violentée, pendant au moins depuis évidemment la période même qui a succédé à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'est-à-dire depuis la ségrégation. Mais de l'autre côté, on voit que pour une certaine représentation de la citoyenneté américaine, justement, le corps noir représente une menace de laquelle il faudrait se défendre. Et que tout agresseur ou tout voleur, finalement, est par définition un homme noir. Ce qui fait qu'il y a des sortes de... Ça crée des injonctions à se défendre. Pour être un bon citoyen, il faudrait bien surveiller l'ensemble des hommes noirs au cas où, dès lors qu'ils entrent dans des quartiers blancs, ils auraient des velléités de voler. Mais ça, pour moi, voilà ce dispositif que je viens de décrire, où il y a de fait des êtres traqués, qui sont objectivement traqués et qui meurent à 17 ans de deux balles dans le dos. et qui supplient d'ailleurs leur assassin de ne pas les abattre, puisque c'est l'enregistrement.
On dispose de l'enregistrement.
Exactement,
de cet
à la police de Trayvon Martin, ouais. Donc de ses derniers mots. Et en face, on a George Zimmerman, qui est un voisin vigilant et qui se prend pour un justicier et qui pense défendre la société américaine en abattant ce jeune homme. Eh bien, pour George Zimmerman, pour ce vigilant, pour ce bon citoyen, qui est tout à fait légitime à prendre, à user de la violence la plus extrême et qui le fait, y compris en étant protégé par les lois et qui sera acquitté même. Eh bien, le monde est précisément un monde sans autrui. C'est-à-dire que là, on est à la place de ce que j'ai appelé une subjectivité paranoïaque où autrui n'existe pas. Il n'y a plus d'alter ego, en fait. On est dans la disparition d'un monde où, justement, chaque individu est considéré comme une menace, où chaque individu, en fait, vient dans un monde où autrui a disparu. Et l'idée que j'ai voulu développer, c'est qu'un monde où, justement, lorsqu'on vous tape derrière, lorsque quelqu'un arrive et vous tape l'épaule derrière vous, ce monde-là, ben vous ne pouvez plus concevoir que c'est autrui qui vous dit « Tiens, regarde, il y a quelque chose qui est beau à regarder » ou « Tiens, attention, il y a quelque chose qui me fait peur ou qui est effrayant et qui arrive », comme l'écrit Deleuze. Mais on va considérer que ce geste anodin, eh bien, va m'autoriser à me retourner et à abattre cette personne. Et c'est ça la disparition d'autrui. C'est ça la disparition d'un monde habitable. Et donc, ce que j'ai voulu saisir à travers ce livre, c'est que ce gouvernement défensif dans lequel, à mon sens, nous sommes, eh bien, c'est la disparition pure et simple d'un monde commun.
Vous terminez votre livre avec cet exemple de Trayvon Martin. On va terminer cette émission aussi avec ce son.
Je suis Trayvon Martin, nous sommes tous Trayvon Martin, slogan de cette mobilisation nationale repris à Manhattan par Aaron, la cinquantaine. On en a marre d'enterrer nos enfants, marre de ces funérailles alors qu'ils n'ont rien fait, explique ce père, dont le fils a été tué par la police de New York par erreur en 1994. Et 20 ans plus tard, rien n'a changé, être noir, c'est toujours être un suspect. J'ai appris à mon fils à faire attention quand il court après un bus, pour qu'on ne le prenne pas pour un voleur. Alors est-ce que je vais devoir faire pareil avec mon petit-fils, s'interroge Hughes, qui est venu elle en famille. Cette suspicion permanente, ça fait partie de notre vie quotidienne, confirme son fils, pendant qu'à la tribune, le révérend Sharpton, figure du mouvement des droits civiques, appelle à poursuivre le combat de Luther King, sous les applaudissements de Rosa, qui est elle d'origine mexicaine. À cause de l'immigration, il y a de plus en plus de délits de faciès avec les latinos, eux aussi sont tués, ou eux aussi risquent d'être tués pour rien, explique-t-elle. New York, Aurélien Colli, France Inter.
Merci beaucoup Elsa Dorland d'être venue nous parler de votre livre. Merci. Aujourd'hui. Ça donne envie de continuer la discussion, d'aborder. On n'a abordé qu'une petite partie de votre ouvrage. Il est beaucoup plus riche et aborde d'autres aspects de cette même discussion. Donc j'invite les lecteurs à s'y référer, les auditeurs à devenir lecteurs de votre livre « Se défendre, une philosophie de la violence » disponible aux éditions Zone. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver comme tous les jours le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité. Quelle actu a retenu votre attention aujourd'hui ?
Eh bien, c'est d'un canular que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, les canulars ponctuent l'histoire de la littérature et des sciences humaines, de l'invention d'animaux imaginaires aux caméras invisibles, en passant par Prosper Mérimée qui s'est fait passer pour une dramaturge espagnole au tout début de sa carrière, jusqu'à maintenant. Vous en avez peut-être entendu parler en début de semaine, le canular Claude Simon, ou l'histoire de deux amis qui se sont demandé si l'écrivain Claude Simon, donc prix Nobel de littérature en 1985, serait aujourd'hui publié. Pour avoir leur réponse, l'un des deux a décidé d'envoyer à 19 maisons d'édition les premières pages de son livre, Le Palace, sans en donner bien sûr ni le titre ni l'auteur, et voici ce qui s'est passé, rappel des faits et de leur suite.
Serge Vol est un homme discret. À 70 ans, il vit en Ardèche, il peint, il écrit et il correspond régulièrement avec un ami écrivain très connu dont il ne veut pas dire le nom. Et c'est ainsi que tout a commencé.
J'ai reçu une lettre il y a un an ou deux, je ne sais plus, d'un écrivain très connu. On échangeait des propos sur la littérature, les maisons d'édition, etc. et qui m'écrivait « Aucun éditeur aujourd'hui ne publierait Claude Simon ». J'ai voulu m'en rendre compte par moi-même. Et donc j'ai envoyé une cinquantaine de pages du livre Le Palace, du prix Nobel de littérature Claude Simon, à 19 éditeurs petits et grands.
6 mois plus tard, 7 n'ont toujours pas répondu, 12 ont refusé. L'un des éditeurs, dont nous tairons le nom, a même écrit que...
Les phrases étaient sans fin, et faisaient perdre totalement le fil au lecteur. Le récit ne permet pas l'élaboration d'une véritable intrigue avec des personnages bien dessinés.
Le dictionnaire donne cette définition très courte et simple du canular. C'est un terme familier qui signifie la mystification, la blague. Mais à côté de ces deux termes et à entendre ce reportage, il faudrait en rajouter un troisième, celui de vérification. Oui, le canular n'est pas seulement une farce, il n'est pas seulement une imposture destinée à piéger et à faire rire, il est aussi une occasion de vérifier une chose. Quand cet homme, Serge Vol, envoie ainsi les premières pages du roman le plus connu de Claude Simon, ou l'un des plus connus, à toutes ces maisons d'édition, c'est qu'il veut savoir si Claude Simon serait publié aujourd'hui. Il veut en avoir le cœur net, la certitude. De la même manière, une caméra cachée sert à voir comment se comporte en vrai une personne ou une œuvre que l'on signe sous pseudonyme, Prosper Mérimée avec Clara Gazoul ou Romain Gary avec Émile Ajar, entre autres, s'offre la garantie d'être lue pour elle-même en dehors de l'idée que l'on se fait de son auteur ou grâce à l'idée qu'on s'en fait. Le canular est donc un drôle de paradoxe, celui qui consiste à faire la lumière en passant par le mensonge, en avançant masqué, en usant de la dissimulation et du secret. De quoi se poser cette question ? La vérité a-t-elle nécessairement besoin du mensonge ? La connaissance de l'erreur, la certitude de la farce.
8h20, l'invité de France Inter est ce matin philosophe. Bonjour Bernard-Henri Botulle.
Bonjour, Olivier Demorand.
Ah oui, c'est vrai que c'est mon nouveau prénom,
c'est
Olivier Demorand,
depuis hier matin.
Sérieusement, Bernard-Henri Lévy, cette histoire de citation d'un philosophe qui n'existe pas, ça craint vraiment, non, comme disent les jeunes?
Écoutez, c'était marrant 5 minutes, maintenant je trouve que ça va comme ça. Ça me fait moins marrer maintenant.
Et pourquoi? Ça me fait moins rire. C'est ridicule.
Parce que je crois que c'est ridicule surtout pour ceux qui s'en servent pour éviter de lire, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Mais voilà. Le monde entier, Bernard-Henri Lévy, est mort de rire.
Eh bien, moi, j'étais mort de rire, mais je trouve que ce qui a commencé comme un canular sympathique, comme un canular de potache, est en train de tourner bizarrement. Et c'est en train de tourner un peu pestilentiel, monde entier ou pas.
La vie de Jean-Baptiste Botulle, philosophe de tradition orale, est encore mal connue. Seule certitude, il est né en 1896 et mort en 1947. À part cela, on ne sait pas grand-chose sinon que ce grand esprit originaire des Hautes-Corbières, il pâtit beaucoup de son accent méridional, connut de très près Joséphine Baker, Lou André Salomé et Simone de Beauvoir. On signale sa présence en Argentine, à Clipperton, en Cilicie et au Paraguay dans des missions restées très secrètes. Alors ça, je l'ai trouvé, c'est la présentation du philosophe fictif, donc Jean-Baptiste Botulle, créé au milieu des années 90 et que BHL a lu en pensant qu'il existait vraiment et il s'en est dès lors trouvé ridiculisé et vexé. Dans ce cas, ma question c'est sur quoi a-t-on voulu faire la lumière avec ce canular ? Sur le ridicule de BHL, semble-t-il, alors pourquoi pas ? Mais on pourrait aussi se dire sur la profonde incertitude de nos connaissances, lecteurs certifiés ou écrivains reconnus, incertitude essentielle qui touche même ceux qui s'en pensent préservés et parlent au nom de l'objectivité. Ceux, tels les philosophes, comme le dit Montaigne, qui veulent se mettre hors d'eux-mêmes et échapper à l'homme, mais ne sont que des bêtes. Ce que le canular semble mettre alors au jour et vérifier à chaque fois, c'est d'abord la crédulité de chacun, de tous même. Une fragilité qu'on peut assumer si on suit Montaigne et son scepticisme, mais c'est aussi la fragilité même de la vérité. La vérité n'a peut-être qu'une face selon Montaigne, mais celle-ci n'est jamais la même selon les époques, ses feintes et ses masques.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Marianne Chassor, Louis Servet, Géraldine Mosna-Savoie, Jean-Frédéric qui est à la prise de son aujourd'hui, Olivier Bétard qui a réalisé cette semaine, Yvan Morane qui était à la lecture des textes. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine sur la fatigue. Et oui, vous la connaissez bien, nous la ressentons tous. Même moi, j'en fais les frais, vous voyez. Eh bien, nous en parlerons toute la semaine prochaine, lundi, avec La Grande Fatigue de Friedrich Nietzsche, mardi, Oblomov de Gontcharov, ou bien L'Homme Couché, c'est son autre nom, mercredi, une ode à la fatigue par le philosophe Eric Fiat, et enfin, Les Nuits Blanches de Lévinas, ça, ce sera jeudi. D'ici D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur ses comptes Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous lundi à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.